Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru aux éditions CNRS en 2016, sous la direction de Gilbert Bouty et Philippe Rodège, « Histoire des pirates et des corsaires ». De l'Antiquité à nos jours est une vaste synthèse d'histoire maritime. L'ouvrage collectif suit, à l'échelle mondiale et sur la longue durée. Les pratiques de prédation exercées en mer de la Méditerranée antique et des raids vikings aux formes contemporaines observées, notamment en Asie du Sud-Est ou dans le Golfe de Guinée. Son objectif n'est pas de célébrer une galerie d'aventuriers, mais de restituer la diversité des acteurs, des statuts et des contextes politiques qui ont produit la piraterie et la course. Les figures célèbres, Barberousse, Drake, Duguay Trouin, Surcouf ou Koxinga, y servent ainsi de repères dans une histoire plus large des guerres, du commerce, des empires et des sociétés littorales. Le livre examine également la fabrication durable du mythe pirate, depuis les mémoires collectives jusqu'au cinéma, à la bande dessinée et aux jeux vidéo. Il se présente donc comme un ouvrage de référence plutôt que comme un récit d'aventure. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, pirate et corsaire, une distinction juridique indispensable, mais historiquement instable. Le point de départ majeur de l'ouvrage est la distinction entre piraterie et course. Dans son acception classique, le pirate agit pour son propre compte, sans autorisation souveraine, tandis que le corsaire est un acteur privé mandaté en temps de guerre par une autorité politique, notamment au moyen d'une lettre de marque. Cette différence ne relève pas seulement du vocabulaire, elle conditionne la légalité de la prise, le traitement des équipages, le partage du butin et les rapports diplomatiques entre puissances. Le corsaire ne se situe donc pas hors de l'État. Il participe, sous contrôle et dans un cadre intéressé, à une guerre maritime. La synthèse évite toutefois d'en faire une frontière simple et intemporelle. Les dénominations changent selon les langues, les périodes et le point de vue de celui qui les emploie. Un même marin peut être présenté comme corsaire par le pouvoir qui le commissionne et comme pirate par les victimes de ses attaques. Certaines zones, notamment méditerranéennes, connaissent aussi des situations hybrides souvent désignées comme de la corso-piraterie. En rappelant que les catégories sont elles-mêmes des objets historiques, le livre empêche de projeter sur toutes les époques une opposition juridique moderne et parfaitement nette. Il invite à analyser les pratiques concrètes, les autorisations revendiquées et les intérêts en jeu avant d'attribuer une étiquette définitive. Deuxièmement, la prédation maritime comme économie de guerre, de financement et de redistribution, l'ouvrage replace les attaques en mer dans les circuits économiques qui les rendent possibles. Prendre un navire ne signifie pas uniquement s'emparer d'un chargement, une opération suppose des bâtiments, des armes, des équipages, des ports d'appui, des réseaux d'information et des débouchés permettant de vendre ou de répartir les prises. Dans le cas de course, l'armateur finance l'expédition, des investisseurs peuvent y engager des capitaux et l'État encadre l'activité tout en prélevant une part des gains. La guerre navale mobilise ainsi des intérêts privés afin de fragiliser le commerce adverse sans faire peser l'intégralité des coûts sur les finances publiques. Cette perspective corrige l'image du capitaine solitaire enrichi par l'aventure. Les profits sont distribués selon des hiérarchies précises autorités, investisseurs, armateurs, capitaines et gens de mer ne reçoivent ni la même part ni les mêmes garanties. De plus, les prises doivent être validées, contestées ou liquidées dans des dispositifs administratifs et judiciaires. La violence maritime est donc inséparable d'institutions terrestres. En étudiant ces mécanismes, le livre montre que pirates et corsaires évoluent dans des économies connectées, où la croissance du commerce crée des cibles lucratives, mais aussi les moyens de les poursuivre. La prédation apparaît moins comme une anomalie marginale que comme un phénomène lié aux rivalités commerciales, impériales et militaires. Troisièmement, une histoire mondiale qui décentre le récit des Caraïbes et de l'âge d'or pirate. L'une des singularités les plus nettes du volume est son refus de réduire l'histoire pirate aux Antilles des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette période reste importante, notamment parce qu'elle a nourri une grande partie des imaginaires modernes de la flibuste. Mais elle n'est qu'une séquence dans une enquête qui commence avec les pirates de la Méditerranée antique. Inclut les raids vikings du Moyen-Âge et traverse des espaces aussi différents que la Méditerranée, l'Atlantique, l'océan Indien, la mer de Chine et les archipels d'Asie du Sud-Est. Ce déplacement d'échelle produit un résultat essentiel: la piraterie n'est pas le monopole d'une civilisation, d'une mer ou d'un âge héroïque. Elle surgit là où circulent des hommes et des marchandises, où les pouvoirs maritimes sont disputés et où les littoraux offrent des refuges, des ressources ou des complicités. Les figures telles que Dragu, Barberousse, Drake, Surcouf, Duguay Trouin ou Koxinga permettent de jalonner cette diversité, sans la ramener à une simple succession de biographies. Elles illustrent des mondes politiques distincts et des articulations variables entre guerre, commerce et souveraineté. L'approche comparée permet aussi de comprendre les continuités sans effacer les différences. toutes les formes de prédation ne répondent pas aux mêmes règles, ni aux mêmes technologies, ni aux mêmes états. L'intérêt du livre est précisément d'offrir un cadre suffisamment vaste pour observer ces transformations plutôt que d'imposer un modèle unique du pirate. Quatrièmement, les états commanditaires occasionnels, régulateurs des prises et artisans de la répression. L'histoire proposée ne place pas l'État face à la piraterie comme s'il s'agissait toujours d'un adversaire extérieur. Les autorités souveraines peuvent autoriser la course lorsqu'elles servent leurs objectifs militaires et commerciaux. Elles transforment alors des initiatives privées en instruments de guerre, délivrent des commissions, organisent la reconnaissance des prises et cherchent à capter une part de leurs bénéfices. La frontière entre violence légitime et illégitime dépend donc largement du rapport de force politique et de la capacité d'un pouvoir à faire reconnaître ses décisions. Cette relation est néanmoins réversible. Quand un conflit s'achève, quand les intérêts diplomatiques changent ou quand un pouvoir consolide sa maîtrise des routes maritimes, les anciens auxiliaires peuvent devenir encombrants. Des marins formés à la guerre de course peuvent poursuivre les attaques sans mandat. Ils sont alors plus facilement désignés comme pirates et soumis à la répression. Le livre met ainsi en lumière le rôle de l'extension des marines de guerre, de l'administration coloniale et des dispositifs judiciaires dans la limitation de certaines formes de prédation, sans suggérer leur disparition définitive. Cette analyse nuance autant la vision romantique du corsaire patriote que celle d'un pirate entièrement indépendant des pouvoirs. Dans les deux cas, les pratiques maritimes s'inscrivent dans des espaces gouvernés, contestés ou insuffisamment contrôlés. Comprendre ces relations aide à saisir pourquoi les catégories légales et morales évoluent au rythme des guerres, de la formation des empires et de la mondialisation des échanges. En dernier lieu, du fait historique au mythe, la mémoire pirate dans les cultures contemporaines, le livre ne s'arrête pas aux opérations navales et aux cadres juridiques. Il s'intéresse également à la manière dont la piraterie s'est ancrée dans la mémoire collective. Cette dimension est décisive, car l'image populaire du pirate, liberté sans entrave, trésor, île lointaine, fraternité d'équipage et défis lancés aux puissants, sélectionne certains éléments du passé et en écarte d'autres. Elle tend notamment à atténuer la brutalité des prises, les contraintes de la vie maritime, les intérêts financiers et les liens parfois étroits entre prédateurs et autorités. L'ouvrage restitue ainsi l'écart entre une réalité historique multiple et ses réemplois culturels. Les héros de la flibuste ou de la course deviennent des figures disponibles pour l'aventure, le nationalisme local, l'exotisme ou la critique de l'ordre établi. Le cinéma, la bande dessinée et les jeux vidéo prolongent ces transformations en fixant des codes visuels et narratifs particulièrement puissants. L'intérêt n'est pas de dénoncer la fiction, mais de comprendre ce qu'elle fait à l'histoire. Elle rend certaines époques célèbres, impose des archétypes et peut faire oublier les espaces moins familiers, comme la Méditerranée ou l'Asie. Pour le lecteur, cette partie donne des outils pour distinguer documentation et légende sans opposer stérilement savoir et imaginaire. La persistance du mythe devient elle-même un objet historique, révélateur de la fascination durable exercée par les marges maritimes et par les formes ambiguës de violence autorisées. En conclusion, cet ouvrage s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent dépasser les versions rosnesques ou exclusivement caribéennes de la piraterie. Il sera particulièrement utile aux étudiants et amateurs d'histoire maritime, d'histoire moderne, des empires et du commerce. Mais reste également accessible à quiconque cherche à replacer des noms célèbres dans leur cadre politique et économique. Sa lecture apporte un bénéfice intellectuel concret, elle permet de distinguer les statuts juridiques sans les figer, de comprendre la fonction économique des prises et d'identifier le rôle ambivalent des États, à la fois utilisateur et répressif de la violence maritime. Par rapport aux biographies de capitaines célèbres, aux récits d'aventures ou aux études limitées à l'âge d'or antillais, l'histoire des pirates et des corsaires se distingue par son ambition comparative et mondiale. Son parcours, de l'Antiquité aux enjeux contemporains, relie les mers plutôt que de les traiter comme des théâtres isolés. Il ne privilégie pas seulement les exploits individuels, il met au premier plan les armateurs, les investisseurs, les administrations, les réseaux commerciaux et les sociétés littorales qui rendent ces activités possibles ou les combattent. La densité d'un volume de plus de 600 pages demande un réel investissement. Elle constitue aussi sa principale force. Le livre offre une synthèse solidement contextualisée, attentive aux variations des mots, des pratiques et des représentations. C'est donc moins un manuel de légende pirate qu'un instrument de compréhension globale d'un phénomène maritime durable. Si vous souhaitez soutenir Gilbert Bouty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.